faire. Donc, bienvenue à l'espace Mendès France pour cette causerie autour de Barry Ancelet. Donc, merci d'être présent pour cette rencontre.
Normalement, cette causerie au cours de ce sujet.
Oui, oui, plutôt. Merci André Magor de l'Université de Poitiers, du Centre d'études acadiennes de Poitiers, d'être là. Je pense qu'il y a des francophiles, francophones, étudiants, moins étudiants, mais fervents de francophonie dans la salle. Donc je vous salue tous. D'un mot avant de présenter Barry.
Il y a même des
francophones, ouais, tu crois? Je pense aussi. D'un mot simplement pour vous dire que moi, dans mon ancien travail, j'étais directeur des affaires économiques de Poitiers. Et à ce titre-là, j'ai eu le plaisir, la chance de relancer le jumelage avec la ville de Lafayette en Louisiane en 1986. On avait un maire à Poitiers qui est un petit peu particulier. Il était d'une culture historiquement issue, on va dire, du Parti communiste. Et les Américains et l'Amérique, ou l'Amérique et les Américains, c'était pas trop son truc. Il s'appelait Jacques Centraux. Et donc, il m'avait envoyé en éclaireur. Et c'était la première fois que quelqu'un de Poitiers venait à Lafayette depuis 1980, voilà, c'est ça. Donc, c'était un peu une surprise. Donc, depuis, je suis devenu... un Louisianais de cœur, c'est un peu mon pays, mon second pays d'adoption. J'ai dû y aller une cinquantaine de fois. Et puis, j'ai rencontré cet éminent universitaire. Et la première fois que je l'ai rencontré, c'était plutôt dans une tenue de chasseur et de pêcheur des bayous, puisqu'on s'est retrouvé dans sa cabane. Il arrivait d'une petite campagne de pêche. Voilà, donc Barry Ancelet est un éminent universitaire. Si vous allez regarder un petit peu ce qui se passe sur Internet, vous verrez qu'il est... il est protéiforme, multi-activité, écrivain, chercheur. C'est un vrai et un grand spécialiste de la francophonie. Je vous recommande ses écrits qui sont sur Internet. Et moi, il m'a donné une leçon de français en 1988 en disant bah, finalement, c'est pas parce que tu le dis comme ça que moi, si je le dis autrement, je ne parle pas pour autant un mot français. Donc voilà, c'est un homme ouvert à la culture. Et à ce titre-là, moi, je suis heureux de le recevoir ici parce que à chaque fois qu'il fait ses interventions, mais je crois que dans la salle, certains le connaissent et connaissent ses interventions. En fait, il ouvre aussi une porte sur une forme de créativité qui part de cette notion de singularité et d'exception qui, en fait, devient, à un moment ou à un autre, un peu universelle. Donc, la chanson, les photos de maisons, de portes, de poignées de portes servent de prétexte, en fait, à un message universel. Et à ce titre-là, je présente souvent Barry Ancelet comme un des grands humanistes d'Amérique du Nord. Voilà, donc Barry, je te laisse partir vers cette conférence dont au sujet duquel tu ne sais absolument pas encore ce que tu vas faire, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est une improvisation maîtrisée comme d'habitude. Donc merci à tous d'être là. Et je crois qu'à l'issue de la conférence, on se retrouvera autour d'un verre de l'amitié. Hein, voilà. Donc vous resterez autour de notre ami conférencier. Barry, la parole est à toi.
Après cette présentation, merci et bonsoir. Non, c'est à quelle heure les feux d'artifice? Ah, oh, c'est demain. Ah. J'allais dire que j'allais finir avant. J'ai cru comprendre qu'on aurait aimé que je parle un peu de mettons l'imaginaire hein, de la perspective cajun de la Louisiane. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que quand dans notre passé, c'est pas qu'on n'avait pas des histoires, mais on avait des histoires et une littérature, si vous voulez, mais c'est difficile à dire littérature parce que littérature veut dire écrit et ce n'était pas écrit. Il y a des ethnologues qui ont inventé le terme oraliture. Ok. Tout ce qu'on veut, n'importe comment on veut dire la chose, mais chaque peuple exprime un imaginaire qui représente un peu leur perspective sur le monde. Et dans les cas des gens lettrés, ça peut ça vient des poètes, des romanciers, des dramaturges, tout ça. Mais dans le cas des gens qui n'ont pas l'option ou la possibilité d'écrire, ça vient autrement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un imaginaire. Il y a des contes qui sont racontés, des chansons, ce qui sont des poèmes chantés. D'ailleurs, la tradition poétique, la tradition de la poésie a son origine. Regardez, c'est la chanson de Roland. Les poèmes de Homère étaient chantés. Tous les grands poèmes épiques de l'ancien temps étaient chantés. Donc, dans un sens, une poésie chantée reprend ses origines, ou préserve plutôt ses origines. En Louisiane, il y a eu une tradition littéraire qui a produit des romans, des poèmes publiés, surtout au 18e, 19e siècle. Et cette tradition littéraire s'est éteinte à peu près en 1920, dans les environs, avec la mort du dernier écrivain lettré, ça semble un peu dire deux fois la même chose, mais c'était la fin de la présence visuelle du français, si vous comprenez ce que je veux dire, jusqu'à ce que une petite révolution a eu lieu à partir des années 1950. On a commencé à avoir une reprise de conscience. En fait, c'était juste après la Deuxième Guerre mondiale. On a commencé à avoir une sorte de reprise de conscience de la valeur du français qui était en train de se perdre. Ironiquement, les gens les plus lettrés en français en Louisiane sont ceux qui ont le plus vite abandonné le français, à utiliser le français, parler français. Les Cajuns et les Créoles noirs en Louisiane, ceux qui ont continué à utiliser le français, ne l'ont pas fait par exprès pour marquer un but diplomatique ou politique. Ils l'ont simplement fait par négligence. Hein, c'était des gens qui avaient été négligés par le système d'éducation. Ceux qui avaient le plus accès à l'éducation étaient ceux qui risquaient le moins de parler français. C'est ironique, un peu. Ce n'était pas du tout le cas, par exemple, parmi les francophones du nord-est des États-Unis, ni en Acadie, ni au Québec. Là, il y avait des écoles et l'Église catholique qui supportaient la langue visuellement. En Louisiane, ce n'était pas le cas du tout. C'était exactement l'inverse. Et la mini-révolution qui a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale et qui a continué dans les années 50 avec une sorte de reprise de conscience de l'acadienneté qui a mené à la première célébration du bicentenaire de l'exil, du grand dérangement quand les Acadiens ont été exilés de ce qui est aujourd'hui la Nouvelle-Écosse en 1755. En 1955, on a fêté le bicentenaire de ce moment traumatique dans notre histoire. Ça peut paraître un peu bizarre. Pourquoi fêter un traumatisme? Ben, la réponse simple, c'est qu'on était encore là pour fêter. Hein? Malgré le traumatisme, on avait survécu et on était là, on a encore parlé français. Encore une fois, par négligence, on nous avait pas encore atteint. On avait commencé à nous atteindre parce qu'en 1916, le français a été officiellement banni des écoles. En 1921, officiellement banni du système dans l'État. Et il y avait une énorme pression pour essayer d'effacer la présence française en Louisiane. Malgré tout, il y avait encore, pendant la Deuxième Guerre mondiale, des gens qui parlaient français. Et il y en a beaucoup qui ont été envoyés dans cette région ici, un des centres de la résistance. Hein? Et les officiers américains se sont rendus compte que ces soldats Cajuns, qu'on avait essayé de décourager de parler français quand ils étaient enfants, non seulement il parlait français, mais il parlait ce français. Et donc, ils ont pu se cacher complètement parmi les fermiers, les paysans, les fermiers du coin. Une langue qui sert à vous humilier quand vous êtes enfant et on est puni à l'école et puis on est humilié. On va essayer peut-être de s'en défaire. Je vais laisser ça de côté. Mais là, la même langue, une dizaine d'années plus tard, vous empêche d'être tiré dessus. On va peut-être repenser à la chose. Hein? Parce que tous les Cadjiens qui parlaient français, ils étaient des interprètes, et puis les interprètes restaient en arrière des lignes avec les officiers. Alors, ils ont commencé à repenser à la chose. Et ils rentraient en Louisiane, ils disaient, « Hey, vous savez quoi? Cette langue qu'on parle, on avait toujours dit que c'était même pas du bon français. C'était même pas du vrai français. Ça servait à rien. » Je vais vous dire quoi, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à avoir une bouteille de vin, ça sert à sortir avec une belle fille, et ça sert à ne pas être tiré. Hein? C'est important, ça. N'est-ce pas? Alors ces gens-là, c'est eux qui ont un peu lancé cette reprise de position. Dans les années 1960, ça a mené jusqu'à 68. Hein? Il y avait des événements partout... dans le monde, il y avait mai 68 à Paris, 68 c'était une année mouvementée. Et en Louisiane, le résultat de notre mouvement, c'était la création du Conseil pour le développement du français en Louisiane, qui a précisément renversé la position de 1916 et 1921. On a commencé à non seulement tolérer le français dans les écoles, mais enseigner du français dans les écoles. Mais avec des précisions. C'était le français standard, importé, normalisant. Toujours est-il qu'il y a toute une jeune génération de francophones, cadjens et créoles noirs, qui ont appris à lire et écrire pour la première fois dans l'histoire de leur famille, de leur peuple, ont appris à lire et écrire le français. Et si on produit un certain nombre de ces gens-là qui sont capables, qui savent comment capturer leur pensée dans cette forme-là, faut s'attendre que certains vont le faire, ils vont peut-être avoir quelque chose à dire et puis avoir l'occasion de s'asseoir devant sur un bout de papier et puis écrire des pensées. La plupart du temps, au début, on cache ça dans le tiroir avec les chaussettes. On montre ça à personne. Mais petit à petit, on a commencé à découvrir qu'il y avait des gens qui ont fait ça et on les a rassemblés. Et... ça sortit dans une collection qui s'appelle Cris sur le Bayou. Qui était la première publication de littérature contemporaine cadjienne en Louisiane. Il y avait déjà une littérature, j'ai bien dit, jusqu'au début du XXe siècle, mais cette littérature venait de toute une autre provenance. Ça venait des cadjiens eux-mêmes, qui jusqu'à là avaient seulement raconté ou chanté leurs histoires. Rendu là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on raconte? À qui on parle? Pourquoi écrire? Il n'y avait pas beaucoup de gens qui pouvaient lire, donc si on écrivait quelque chose, c'était par exercice personnel, ou bien, en plus, c'était pour communiquer avec quelqu'un, mais comment? On ne pouvait pas montrer cette forme visuelle d'une histoire à la plupart du public qui n'avait pas encore appris à lire. Alors, on s'est tout de suite rendu compte qu'il fallait découvrir des genres littéraires qui évitaient l'œil, qui passaient par l'oreille. Hein? Donc, on a développé des pièces de théâtre, on a développé des poèmes qui pouvaient être soit racontés ou chantés, des monologues qui pouvaient être joués. Donc, une littérature performée, si vous voulez. Conceptuellement, qu'est-ce qu'on raconte? Des histoires personnelles, des histoires qui sont dans la tête des gens. Qu'est-ce qui était dans la tête des gens? Ben, on était au moment de perdre notre français, on perd la culture, de devenir américanisé traumatiquement. Et une grande partie de cette littérature qui était, mettons, on appelle ça engagé, hein, conscient de certaines politiques ou positions. Certains étaient carrément des manifestes. Je vais vous en montrer dans quelques minutes. Et quel était... Est-ce qu'il y avait une tradition littéraire à suivre ou est-ce qu'il fallait complètement inventer la chose de rien, hein, d'un vide? Quand on se tournait vers le passé pour regarder s'il y avait une littérature de base, quelle était, vous savez, si vous connaissez un peu la Louisiane ou les Acadiens, quel était le grand... la grande réalité, l'énorme réalité, la gigantesque réalité littéraire dans le passé des Acadiens. Quoi? Spécifiquement dans l'histoire des Acadiens, on nous avait donné un personnage littéraire qui ne venait pas de notre histoire. Enfin, qui prétendait raconter notre histoire, mais ça racontait notre histoire de l'extérieur. Évangeline. Hein? Le poème de Henry Wadsworth Longfellow, qui était un Américain de Boston, qui a écrit un poème épique sur la déportation des Acadiens, comment Évangeline et Gabriel avaient été séparés par les événements et qu'ils se sont pourchassés à travers le continent. Pour essayer de se retrouver, ils n'ont pas pu. Évangeline a fini par perdre courage un peu, puis elle a tombé, elle s'est trouvée à Philadelphie, là où elle est devenue garde-malade, comme on appelle ça chez nous, une infirmière. Et elle a trouvé son Gabriel, longtemps séparé, juste à temps pour qu'il meure dans ses bras. Mais ayant été fidèle pendant toute sa vie, oh, c'est une belle histoire. Ce n'est pas la nôtre. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la nôtre. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas la nôtre. Le simple fait que j'existe, moi, montre que l'histoire d'Évangeline est anormale. Pourquoi? Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais eu d'enfant, elle est morte d'un cœur cassé. C'était tellement une grande histoire, énorme. Ça a attiré de l'attention partout dans les États-Unis, en France, au Canada, partout. Elle est devenue l'héroïne acadienne. Héroïne, mon œil, elle n'a rien fait. Elle a été poussée par les événements. Elle a subi beaucoup, mais elle n'a rien fait. À tel point qu'un écrivain qui s'appelle Felix Voorhees, un Louisianais, a dit... Pour des raisons tout à fait intéressantes, il a dit, parce qu'il y avait des gens qui venaient en Louisiane pour visiter là où Évangeline avait fait sa trace, hein, à Saint-Martinville et tout ça. Il y a un chêne d'Évangeline, là où, soi-disant, elle aurait attendu son Gabriel sans espoir, enfin, avec beaucoup d'espoir, mais sans résultat. Elle aurait perdu son Gabriel et Felix Voorhees a réécrit l'histoire parce que les gens qui venaient visiter le phénomène Évangeline, on pouvait seulement leur dire « elle a passé par ici ». Mais beaucoup plus impressionnant de dire « elle est morte ici ». Hein? George Washington passed here, une chose. George Washington buried here, c'est autre chose. En 1920, quelque chose, 27, 26, 23, quelque chose, ils ont fait un film basé sur l'histoire d'Évangeline. Succès national. Attiré encore beaucoup plus d'attention. Alors, Felix Voorhees a dit, oui, elle est partie à Philadelphie. Philadelphie n'a pas besoin d'autres choses pour leur tourisme culturel. Ils ont Ben Franklin, ils ont la cloche de la liberté, ils ont Independence Hall. Merde. Nous, on a besoin de quelque chose à Saint-Martinville pour attirer les gens. Alors, il a réinventé l'histoire de Emmeline Labiche et Louis Arsenault, qui auraient été les prototypes d'Évangeline et Gabriel, qui seraient séparés par les événements, rendus à Saint-Martinville. Évangeline l'attendait, ne savait pas que lui, il était arrivé déjà. Lui, il avait perdu espoir de jamais la retrouver. Il s'est marié et elle attendait fidèlement sous le chêne. Un jour, il arrive au village pour faire des achats. Elle le voit, commence à courir, il commence à courir à elle. Et puis là, tout d'un coup, il se rattrape, il dit « Non, non, je me suis marié. » Et elle s'est tournée de bord avec les larmes aux yeux. Elle est allée s'asseoir sous le chêne vert. Et puis elle est morte d'un cœur cassé. C'est une belle histoire. Mais ça sert à quoi? Encore une fois, pas d'enfant, pas d'avenir. Si ma grand-mère avait été comme Évangeline, je ne serais pas ici. Heureusement, ma grand-mère n'était pas comme Évangeline. Elle a fait des enfants, elle a travaillé dur. Alors, une chose qu'on a fait dans ce début de littérature, c'était un peu, on a répondu à Évangeline. Hein? Antonine Maillet a fait la même chose, l'écrivaine acadienne, avec Pélagie Lacharette, une femme forte qui a mené son peuple à travers toute une période, et puis elles se sont rendues en Acadie. Voici ma réponse en tant que Jean Arsenault. Ça s'appelle Mélanie Brasseux. Ça s'appelle pas Évangeline, rien du tout. Ouais, j'ai attendu les histoires, comment Évangeline a perdu son Gabriel, puis elle l'a coursé à travers tout le continent jusqu'à qu'elle a perdu courage, puis elle l'a trouvé par accident à Philadelphie, juste à temps pour qu'il crève dans ses bras. Et comment Emmeline a perdu son Louis, et puis elle a suivi sa trace jusqu'à la Louisiane, mais il était déjà marié avec un autre, et elle a perdu la tête, et puis elle est morte d'un cœur cassé en bas d'un grand chêne vert. C'est tout bien beau si tu as envie de pleurer. Mais nous autres, on n'avait pas le temps de perdre courage ni perdre la tête. Il fallait se débattre pour garder corps et âme ensemble. Personne n'avait trop envie de mourir en bas d'un chêne vert ou n'importe où d'autre. Ceux qui l'ont fait, c'est ceux qui avaient beaucoup de courage, qui étaient entêtés. Évangeline et Emmeline, elles ont eu un tas de malheurs. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Espérer? Moi, j'ai été séparé de mon veau, moi, pour de vrai. C'était pas une histoire qui l'a pris, c'était un bateau. Henri Doucette, il s'appelait. Je voulais pas croire qu'on serait jamais, plus jamais retrouvé. J'avais espoir et j'imagine que c'est ça qui m'a rendu en Louisiane. Je savais pas du tout où il aurait pu être. Je savais même pas s'il était en Louisiane. Il y en a beaucoup de nous autres qui sont venus ici, mais pas tout. J'ai demandé pour lui à chaque poste où on a passé. Je l'ai cherché tout partout, mais je ne l'ai jamais trouvé. Ce que j'ai trouvé, c'est Justin Leblanc. Je ne le connaissais pas avant, mais j'avais entendu parler de la famille. Il restait à l'autre bord de l'Acadie, pas loin de Louisbourg. C'était devenu des pêcheurs. Quand j'ai rencontré Justin, j'ai vu qu'on s'adonnait bien, que lui, il était droit là, en chair et en os. Henri était rendu un rêve. J'ai marié Justin, on a fait une bonne vie ensemble. Il nous a bâti une petite maison sur le bayou La Fourche. On a fait une petite récolte et lui, il a fait la pêche. Des fois, je rêvais d'Henri, mais la plupart du temps, j'étais bien trop occupé avec mon mari et mes enfants pour rêver. J'ai su par après qu'Henri avait été renvoyé en France à une place nommée Belle-Île. Peut-être qu'il rêve aussi des fois. Mais c'est probablement comme moi. Il a une famille qu'il aime à cette heure et il faut qu'il travaille dur pour faire la vie aller. Et ça, c'est pas des affaires pour mettre dans des histoires, quand même. J'aime ça, des histoires. Il y en a des vraies et il y en a des jolies. Si c'est vrai, ça n'a pas besoin d'être joli. Et si c'est joli, ça n'a pas besoin d'être vrai. Alors, si je peux trouver... Pour continuer, pour pas seulement lire mes propres choses, je voulais vous montrer peut-être une idée de d'autres gens qui ont essayé leur main, a pris la plume et puis essayé de raconter des histoires. Ça, c'est un extrait de Hello, Grandma's Fine and Y'all de Richard Guidry qui raconte encore l'histoire d'une vieille femme qui a fait ce qu'il fallait faire pour faire la vie aller. Vous voyez comment c'est écrit d'une façon pour forcer la prononciation, parce qu'il écrit, il a écrit ça pour une pièce de radio. Alors, si vous comprenez, ça va aider un peu. Je suis assez largué d'attendre parler de notre manière de parler à nous autres que je pourrais rejeter. Il y a la moitié du monde qui dit qu'on devrait oublier le français, puis l'autre moitié du monde qui est tout le temps après nous dire qu'on devrait essayer de garder notre langue. Moi, j'aimerais juste qu'ils pourrions se faire une idée. Je me rappelle bien quand mes enfants allaient à l'école, ils ne voulaient pas laisser parler français sur le terrain d'école. Ça, là, j'ai trouvé ça un peu bête. Les Américains sont tout le temps prêts à essayer de faire croire au monde qu'ils sont les plus smart. Mais moi, je vais vous dire la franche vérité, il n'y a personne dessus la terre qui est plus bête qu'un Américain. Tu as juste besoin de les regarder faire pour voir ça. Ils travaillent tout le temps, et quoi faire? Sûr, pas parce qu'ils n'ont pas assez pour manger. Ou qu'ils n'ont pas de maison pour eux se rester dedans. Non, c'est pour acheter un gros TV en couleur, une laveuse de plat, un gros char. Mais t'en vois jamais un prend le temps de vivre. En réaction à notre réalité. Un autre exemple, c'est un extrait d'une pièce, une longue pièce qui s'appelle « Mille misères » par Émile Desmarais, qui racontait l'histoire d'une famille qui était traumatisée par un énorme cocodrille, un alligator, qui mangeait toutes les petites bêtes à peau, et qui, l'homme ne pouvait plus faire une vie à attraper des fourrures. Et il se demande quoi faire, et puis il cherche de l'aide du bien-être social et de l'État, et personne ne veut l'aider. L'histoire finit avec son garçon qui dit, on n'a pas besoin de demander de l'aide aux autres, on va aller tuer le cocodrille. Puis il dit, oui, mais c'est contre la loi. Les cocodrilles sont une espèce protégée. Et il dit, oui, mais nous aussi. Et puis il tue le cocodrille. Mais ça ici, c'est un extrait. Le garçon qui dit, le père dit que le fait qu'on ne mange pas assez des écrevisses, ça nuit aux Cajuns. Le garçon qui dit, qu'est-ce que les écrevisses ont à voir avec le français Cajun? Père dit, beaucoup, c'est bien simple. Les petits parlant plus français par rapport, ils mangeant plus le manger Cajun. Tu prends un Mexicain qui mange toujours des tamales et des tacos. Qu'est-ce qu'il parle, le Mexicain? Tu prends un Italien qui est toujours après manger des pizzas et des spaghetti. Qu'est-ce qu'il parle, l'Italien? Et les Américains alors? Ils sont toujours après manger des hamburgers, puis des hot dogs, puis du poulet frit. Qu'est-ce qu'ils parlent, l'Américain? Voilà ça qui aide à étouffer le langage Cajun. Les petits mangeriens juste du boudin des écrevisses, ils parleraient joliment bien le Cajun. On est ça qu'on mange. Et les hamburgers faisant des Américains, moi, j'en touche pas du tout. Ça nous a amusé de, au lieu de pleurer, on riait. On a commencé à faire des poèmes basés sur ou utilisant une certaine stratégie d'expression qui venait de la musique et de notre musique. Il y avait beaucoup d'histoires de cœur cassé ou d'amour trouvé ou la nature. C'était pas tout sur le fait politique ou historique. Et ça ici, je devrais peut-être vous lire le tout. C'était le premier poème écrit par Jean Arsenault, complètement par accident, coïncidence, qui a été utilisé dans une présentation à Québec en 1978, et qui a lancé un intérêt à voir si d'autres personnes avaient fait le même genre de choses, qui a mené à la collection Chris et Bayou. Ça s'appelle Chanson pour Louise. Et Louise, c'était une vraie femme, mais il y a une longue tradition en Louisiane de personnifier la Louisiane. On traite la Louisiane comme une maîtresse difficile. Fait trop chaud. la vie est quelquefois difficile, quelquefois merveilleuse. Quand je t'ai laissé seul avec des souvenirs d'un au revoir trop vite fait, sous d'avoir essayé de te boire d'un trait, je me demandais si tu caracolais autant que moi. Échiné, égaré, je me suis rendu en Louisiane pour essayer de rattraper mon souffle, de calmer le feu qui brûlait au fond de mon âme. Et là, après un si long silence, tu me montres autant de poésie dans ton langage que dans ton corps. Je revois et je repasse à des moments indiscrets de la journée les fois que j'ai valsé la nuit dans tes bras, guidé seulement par une symphonie de rire. Et quelque part dans la nuit, un grand cygne noir prend le vent de la paix dans ses ailes. Vous connaissez tous M. Zachary. Et c'est là où on a vu, je crois, la force de la parole chantée, la poésie chantée, avec Réveil qui est devenu un anthème, hein, un anthème de l'Acadie, des Cadiens, de la résistance. Hein. Et voilà, si je peux, pour que vous connaissez. Certains ne connaissent pas. Est-ce que je joue le tout?
Oui.
Pourquoi pas?
J'ai entendu parler, monter avec un beau soleil, pour prendre le fusil par les arbres. J'ai entendu parler d'aller dans la Louisiane pour trouver de
magnifique performance. Et puis ça montre que à quel point la poésie peut avoir une force et un impact en public. Mais il faut comprendre certaines choses. En Louisiane, on n'avait pas cette histoire de l'exil dans nos têtes. On avait passé la guerre civile, on avait passé l'américanisation, on avait passé l'inondation de 27, on avait passé beaucoup de choses qui avaient déplacé un peu la déportation. Il n'y avait pas une seule chanson dans la tradition jusqu'à Réveil qui mentionnait la déportation. Et quand Zachary Richard a chanté Réveil à Moncton, il y a eu des émeutes dans les rues. Ils ont arraché les tapis sur les murs du théâtre, du high school à Moncton. Les gens vidaient dans les rues. Des centaines de personnes qui ont été arrêtées ce soir-là. À Québec, c'était la même chose. C'était la folie. Il a chanté Réveil en 1975 à Lafayette, au deuxième festival de musique acadienne que nous avons organisé. Il y avait 15 000 personnes là. Et personne n'a compris pourquoi il était si fâché, pourquoi il avait le poing en l'air, quelle était cette histoire. Il a été tellement déçu, tellement blessé par ce manque de réaction qu'il n'a pas chanté Réveil encore pendant 20 ans en Louisiane. Et pourtant, c'était devenu une de ses chansons signature partout où il allait dans le monde. En 1995, exactement 20 ans plus tard, il avait été invité encore une fois. Il jouait souvent au festival. Puis il a décidé cette année-là, je vais réessayer encore. Et il a chanté Réveil, coup de tête. Il a chanté Réveil, et cette fois-là, toute la foule a chanté avec lui. Ils avaient appris les paroles. Et puis c'était devenu leur histoire, c'était devenu une réaction qu'ils comprenaient très bien. Donc, dans 20 ans, il y avait eu un mouvement remarquable dans la société. Il écrivait aussi de la poésie, pure et simple. Et d'ailleurs, il a publié plusieurs collections, y compris Faire récolte et Feu et Voyage de nuit. Ça ici, c'est un extrait de La vérité va peut-être te faire du mal. Tu dis sauver le français en salon de thé, le petit doigt levé puant la politesse des coups de poing. Who gives a shit? C'est pas les French teachers, c'est les terroristes. C'est pas les journalistes, c'est des fatras avec des allumettes à l'hôtel de la Sainte Persecution Complex au nom de la mère du pisse et du petit pipi. Parle français ou crève, maudit. Ah, voilà. Wow! Quelle réaction. Ça, c'est une toute petite partie de plus long poème. Quoi ce qu'il avait sur l'idée? Ben, il avait une autocritique sur l'idée. Et il regardait dans un miroir et puis il se disait, on ne fait pas assez, on essaie de blâmer tous les autres. Et c'est exactement ce même complexe d'évangéline encore qui entre dans nos conceptions. Il faut mettre ça de côté, il faut allumer des feux, il faut allumer des bombes. Hein, ça prend une réaction, pas littéralement, mais ça prend une réaction beaucoup plus forte que verser des larmes et mourir d'un cœur cassé en bas d'un chêne vert. Et il y a d'autres, beaucoup d'autres musiciens qui ont aussi fait des choses. Certains parmi vous connaissent Bruce Degroupon, qui aussi décrit une réaction dans Disco Effet Dodo. Et remarquez que comme c'est une musique de danse, il y a une longue introduction à l'accordéon. On attire les gens sur la piste de danse, puis là, après, on les fait écouter.
Au
moque la langue cajenne. C'est juste en anglais parmi les Américains. J'ai manqué Mardi Gras. Je mange tout pas du gombo. Je vais au disco, mais je manque le fait dodo. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme en deuxième exil, cette fois-là lui-même qui s'est envoyé parce qu'il voulait, justement s'échapper de tout ce qui était Cajun, Louisiane, français. Et c'est seulement quand il sort du pays qu'il voit sa valeur. Ça nous arrivait tous, Zachary, moi, Amanda Lafleur, Richard Guitry, tous les gens, tous les activistes en Louisiane ont eu toutes lu la même histoire, la même expérience. On n'a pas compris ce qu'on avait avant d'en être sorti. Et deuxième partie. Est-ce que vous comprenez quand il chante? J'avais l'habitude de changer la station quand j'entendais la musique cajun. Moi, je voulais attendre la bonne musique pareil comme les Américains. À cette heure, je m'ennuie de les vieux Cajuns, c'est souvent je joue leur disque parce qu'il est en Californie. Et je donnerai à peu près 200 piastres pour un livre des écrivices. Et juste pour ne pas donner l'impression que c'est toujours, encore une fois, toujours une question d'engagement, voici une chanson de Wayne Toups. Il s'agit de quoi là? Un homme qui a perdu sa femme par négligence. Elle l'a quitté, elle a pris son enfant, leur enfant avec elle. Oui, c'est une histoire d'amour perdu, une histoire de difficulté, mais okay, laisse-moi continuer. Une chanson de Steve Riley.
Je vais être en vie, il est de ma vie.
une certaine consistance. Oui, c'est des histoires d'amour perdu, des histoires d'amour troublé, mais il s'agit aussi d'un homme qui est seul, loin de sa famille, dans un pays des étrangers. C'est l'histoire de l'exil, mais sublimée. Pas directement mentionnée, mais rendue d'une façon poétique. Derrière une ou deux ou trois couches de sentiments, de symbolique, de langage symbolique. Il s'agit souvent d'être loin de la maison, sur le chemin, tout seul, famille cassée, pas trouver ses enfants. C'est pas par accident qu'on a préservé ces images. Je vais faire une chanson que... excusez, avec des excuses aux étudiants qui l'ont déjà entendu, qui l'ont déjà enduré. Ça a été enregistré par D.L. Menard, si vous connaissez. Ça s'appelle Une dernière chanson. J'ai entendu quand ils ont dit que ma vie t'est proche finie. Je veux pas mourir tout seul ici, sans famille et sans amis. Dans les grands chemins après marcher, personne veut me ramasser. À la maison, ça me connaissait, mais loin ici, je suis juste un étranger. Si je peux me rendre à la maison avant de mourir, je te fais serment, je voudrais trouver mon accordéon et jouer juste une dernière chanson. J'ai toujours vu la vie d'un musicien. Ils ont raison, ça paye pas rien. À ce je seul dedans les chemins, après pleurer comme un orphelin. J'ai perdu ma bonne idée, y a plus personne pour me soigner. J'ai juste moi seul pour me consoler, juste mes chansons pour me soulager. Si je peux me rendre à la maison avant de mourir, je te fais serment, je voudrais trouver mon accordéon et jouer juste une dernière chanson. Encore une fois, il s'agit de se trouver seul sur le chemin. Je ne peux pas vous dire combien de centaines de fois que c'est ce même genre de choses. Et vous avez peut-être remarqué, avec les transcriptions que j'ai montrées, qu'avec la visualisation, comment on a commencé à rendre notre français en écrit et comment les musiciens s'expriment, c'est pas seulement en français, mais c'est dans ce français-là. C'est pas n'importe quel français. C'est le français spécifiquement de Louisiane qui a été préservé tel quel, et c'est ce dialecte-là, c'est cette version de la langue française-là qui exprime le sentiment dans la chanson, qui exprime l'histoire, qui exprime le sens d'humour dans les histoires. Donc, si on va écrire, si on doit produire une littérature viable, une littérature qui nous représente vraiment, ça serait horriblement malhonnête de imiter le parler de quelque part d'autre, me semble. Moi, j'ai pas grandi à l'ombre de la tour Eiffel. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui l'ont fait, mais ce n'est pas moi. Moi, j'ai grandi à l'ombre d'un chêne vert. Et c'est comme ça que je parle. Et si c'est comme ça que je parle, si ça représente ma réalité, c'est comme ça que je devrais écrire aussi, me semble. À savoir, est-ce qu'on peut trouver une façon qui fait ça? Une façon qui... Une façon qui représente cette réalité. Et alors, j'ai commencé à faire des expériences avec ce genre de choses. Et ça sera loin là-bas, il faudra que je... j'ai commencé à écrire des fabliaux. Fabliau, c'est un vieux genre, mais c'est un genre qui représente souvent un sens d'humour, un sens de justice sociale qui est très paysanne, qui est très pratique, qui est très carnavalesque, qui réjouit à renverser l'autorité, qui réjouit à créer du chaos dans des espaces ordonnés, des espaces soi-disant sacrés, dans l'église, dans la salle de classe, dans la cour, à la table familiale, autour du lit de mort. Hein, c'est supposé d'être tranquille et sacré. Et pourtant, j'en avais un là, à voir. Je crois que j'en avais un là. Est-ce que j'en avais un là? Non. OK. Il est peut-être là. Comment est-ce qu'on retourne à... Ah oui, là. Je crois l'avoir là. Juste pour vous donner un exemple. OK. Est-ce que vous arrivez à voir ça? Oups! Pas ça. Okay, ça s'appelle les amis brouillés. Une fois, il y avait deux amis qui avaient tombé en crêle, un Leblanc et un Saunier. Ça vient d'ici. Eux, ça avait été des meilleurs amis proches toute leur vie, mais quelque chose avait arrivé et ça ne se parlait plus du tout. Ça avait été si longtemps que ni un ni l'autre pouvaient se rappeler de quoi c'est qui avait commencé le tracas. Mais ça se parlait toujours pas par principe. Ils ont resté brouillés des années comme ça. Là, un jour, Sonia a tombé bien malade, c'était sérieux. Il était rendu sur son lit de mort, ses enfants ont venu y parler pour arranger ses affaires. Un dit, c'est triste de voir que toi et Leblanc sont toujours brouillés comme ça. Il dit... Vous autres étiez tout le temps ensemble et là, plus rien du tout. Un autre dit, ouais, vous autres devrez essayer de se comprendre. Surtout que toi, tu ne vas peut-être pas durer ta plus longtemps. Et il dit, ça serait malheureux de ne pas régler les affaires avant que c'est trop tard. Vieux Sonnier, lui, il n'était pas trop intéressé à se reprendre, mais les enfants l'ont tellement prêché, il a décidé de lâcher. Il aurait parlé avec son vieux ami pour les enfants. Les enfants à Leblanc, eux, ils ont parlé avec leur père aussi pour lui dire la même chose et qu'ils devraient essayer de se comprendre avec Saunier avant que c'était trop tard pour lui. Il n'avait pas trop envie, lui non plus, mais ses enfants restaient après lui assez que lui aussi il s'est mis d'accord de parler avec le malade. Ses enfants, ils ont dit, mais il est sur son lit de mort. Ça dit, il ne peut pas se lever. Il faudra que tu vas là-bas chez lui pour parler. Il dit, oh, je ne connais pas pour ça. Il dit, c'est comme un rendez-vous, ça. C'est supposé de se faire quelque part en public. Mais ils ont expliqué que l'autre ne pouvait pas se lever du tout. Il a tellement prêché qu'il a décidé d'aller. Le jour du rendez-vous, Leblanc se rend chez Saunier à l'heure appointée. les enfants comme l'emmener dans la chambre et Yusonye était couché, il se plante dans la porte et il dit, Sonye, il dit, les enfants m'ont parlé pour me faire venir ici pour essayer de me comprendre avec toi. Sonye, il dit, ouais, les miennes m'ont parlé de ma même affaire au bon site. Le blanc dit, mais je pense que je suis d'accord de faire la paix pour les enfants. Sonye dit, ouais, moi aussi, je pense pour les enfants. OK, ben le blanc dit, il y a juste une chose. Il dit, si tu crèves pas, ça compte pas, non ça. Normalement, autour du lit de autour du lit de mort, on devrait pouvoir, hein, c'est ça. Comment est-ce que on retourne? Non. Ok. Un autre exemple, puisque vous avez eu les étudiants, vous avez eu un gumbo hier soir, et vous voyez la valeur, hein, et vous voyez l'attraction, vous voyez qu'est-ce que ça peut faire un gumbo. Oui, ça ici, ça s'appelle le dernier gumbo. Vieux monsieur Leblanc était sur son lit de mort, encore une fois, lit de mort. Il restait pas beaucoup de temps, et puis il avait fini de faire tous ses arrangements avec sa famille. Il avait fait venir le prêtre pour lui donner les derniers sacrements. Il avait refait son testament pour partager son bien. Il avait parlé à sa femme et tous ses enfants. Il était prêt pour aller. Dayu, il était couché dans sa chambre. Il pouvait entendre le monde en bas pour faire des préparations. Il pouvait sentir un gumbo. Il a appelé un de ses garçons. Il dit, boy, ce gumbo serait bon, sent bon. Il dit, va dire à ta mère que j'aimerais un petit bol pour goûter une dernière fois. Le garçon a descendu en bas en cuisine. Il est revenu tout de suite au lit de son père avec rien dans ses mains. Le vieux beau, il demande, hey, mon gumbo. Le garçon dit, maman dit que tu ne peux pas en avoir. Elle dit que le gumbo est pour après l'enterrement. OK, là, on va faire une petite expérience. Je vous ai déjà raconté ça. OK. Ah, ça, c'est bon, le lait de vache. OK. Qui veut lire? Je vais faire une expérience parce que moi, j'ai écrit ça comme moi, je parle. On va voir si ça passe par l'œil à quelqu'un qui n'est pas de la Louisiane. Aaron, toi, tu peux pas lire. Tu peux lire à haute voix? Oui, oui. D'abord, il n'a jamais mis les pieds en Amérique. C'est la preuve.
Je ne sais pas s'il faut prendre l'accent ou non. Non, ce n'est pas la peine.
L'idée, c'est de voir si l'idée se communique par la vision.
Donc, une fois, il y avait une vieille femme qui était bien malade. Elle a été près de mourir, après mourir. Et sa famille était après la soigner sur son lit de mort.
Encore une fois.
Ouais. Il ne restait pas longtemps. Et un jour, un des enfants a eu l'idée d'y donner du lait chaud pour la calmer un peu. Il demande si elle aurait aimé ça. Elle dit, mais ouais, ça serait peut-être justement bon, mais elle dit, je me demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir du lait de vache, comme quand j'étais petite. Un de ses garçons lui dit, well, je ne connais pas où vous pourrez trouver ça à cette heure. Il n'y a plus de ça grand-chose, c'est tout déjà pasteurisé. Un autre dit, écoute, mam, mérite bien ça qu'elle veut. Après tout ça qu'elle a fait pour nous autres dans notre vie. Il dit, on va y trouver une vache s'il faut. C'est ça qu'ils ont fait. Ils ont acheté une vache d'un voisin pour en avoir du lait. Le lendemain, il est venu pour leur donner. Il est venu pour y en donner. Il a vu qu'elle était après souffert et ne pouvait pas se reposer. Sa fille, il a eu l'idée de mettre un petit peu de whisky dans le verre avec le lait. Il donne ça. Elle a fait une drôle de figure, mais elle a bu tout. Le jour après, elle a demandé l'autre lait. Elle a dit comment ça y avait fait du bien. Sa fille, ils ont donné un autre verre de lait avec un peu de whisky dedans. Et ça a été comme ça pour les autres quelques semaines qui restaient. Quelqu'un tirait la vache tous les jours et ça mettait un peu de whisky dans le verre avec le lait. Un jour, elle s'est sentie après s'en aller. Elle avait proche plus de force. Ça fait, elle a appelé sa famille pour venir tout ensemble. Elle disait qu'elle avait quelque chose à se dire, à leur dire, avant que ce soit trop tard. Tous ses enfants étaient rassemblés tout le tour de son lit. Elle les a appelés pour venir près. Eux, ça a tous penché pour se mettre droit à côté d'elle. Il a dit, écoute-moi bien, ça ne fait pas rien quoi c'est que vous autres va faire avec la balance. Mais elle a dit, pour l'amour de Dieu, vends pas cette vache.
Alors, la question est déjà répondue parce que vous avez ri. Donc, ça se comprend. L'idée, c'est que quand moi, enfin, une des choses, c'est quand moi je lis du Jean-Paul Sartre, je dois faire un effort. Parce qu'il ne parle pas comme moi. Mais ça vaut la peine parce que c'est intéressant. Hein? Et moi, je me demande si on serait d'accord. Monsieur m'a corrigé seulement deux fois. À l'heure et lui. Ça a l'air qu'il est sensible aux objets indirects. Mais à part de ça, hein, vous avez lu ça dans votre voix à vous-même, vous avez compris, vous avez ça à suivre. Et je me demande si ce même genre de choses ne pourrait qu'enrichir la francophonie, si on pouvait entendre les Africains, les créoles des îles, les Maghrébins, les Québécois, les Acadiens, tout le monde dans leur langue, ça pourrait nous enrichir, ça pourrait élargir les frontières. À mon avis, on perd seulement quand on soustrait. On perd jamais quand on ajoute. Pour un dernier exemple. Oui.
Oh.
La balance, le reste. Oui. Et il y aurait peut-être quelques. Mais chaque fois que je lis Gide, je dois trouver un dictionnaire quelquefois. Et nous avons produit le dictionnaire. Il y a un dictionnaire du français en Louisiane, dans Roxham. Avec un petit investissement, vous serez bien équipé. Alors, juste pour vous montrer que il s'agit pas toujours de lead more. qu'est-ce que je pourrais faire encore? La queue de chaoui, c'est un peu difficile à comprendre. Oui, pourquoi pas? Ouais, ça c'est. Où? Vous savez ce que c'est une chaoui? C'est ce que vous appelez raton laveur, parce que vous n'avez pas posé la question aux Indiens, c'est quoi ça? Les Acadiens ont dit, c'est quoi ça? Les Indiens ont dit, chaoui. Okay. La queue de chaoui, ce que c'est? Oh ben non, ça c'est autour d'un lit, mais pas un lit de mort. Il y a un vieux homme et une vieille femme qui sont mariés en deuxième noce. Vous savez, on fait des charivaris pour ça, n'est-ce pas? Okay. Ils sont mariés en deuxième noce. Ils se tiennent un peu vieux, mais ils ont décidé de prendre un voyage de noces quand même. Le premier soir, ils ont arrêté dans un petit motel sur le bord de la route. Ils ont pris une chambre et ils ont commencé à se préparer pour se coucher. Le vieux Bogue, lui, il a été dans la chambre à bain et il était après brosser ses dents et il était planté là dans la porte avec ses dents dans une main, la brosse dans l'autre, après les brosser. Et sa nouvelle femme, elle a venu à côté du lit et elle a commencé à se préparer pour se coucher. Lui, il l'a guetté faire. Elle s'avait déshabillée et elle était déjà dans sa blouse. Il y avait une petite table à côté du lit. Elle a ôté sa perruque, elle l'a mis sur la petite table. Elle a ôté son râtelier, elle l'a mis sur la petite table. Elle avait un œil en cristal, elle l'a ôté, elle l'a mis sur la petite table. Elle avait une jambe en liège. Elle a ôté, elle a mis sur la petite table. Là, ça tournait sur sa bonne jambe pour se laisser tomber dans le lit. Quand elle a été couchée, elle a figuré son nouveau mari qui était toujours dans la porte après la regarder. Il avait arrêté de brosser. Elle a dit quoi? C'est notre premier soir de noces. Tu viens pas te coucher? Il la regarde, il dit ouais, mais... Il dit, j'ai envie d'espérer pour voir si tu as fini de mettre des affaires sur la petite table avant que je décide et je vais me coucher dans le lit ou sur la petite table. Ah, ça m'amuse aussi. C'est toutes des histoires que j'ai entendues depuis que j'étais petit. Mon père était barbier. Hein, et je passais beaucoup de temps dans son entreprise. Là, puis j'entendais des gens. Puis chaque fois qu'on faisait un barbecue, un gumbo, on se rassemblait pour aller chasser des canards ou quoi, quelqu'un se mettait à raconter des histoires. Puis, tu sais, ça rentre dans la tête. Pendant longtemps, je les enregistrais et je les transcrivais aussi fidèlement que possible, exactement les mots que les conteurs ont utilisés. Mais je n'avais pas toujours une machine à enregistrer avec moi. Ça fait que j'ai décidé que toutes ces histoires-là, j'essayais de les rendre. J'en ai une cinquantaine et j'essaye d'en avoir une centaine avant de les publier parce qu'il y avait une vieille collection de fabliaux du Moyen-Âge qui s'appelait les 100 nouvelles nouvelles. Si je peux arriver à 100, je veux appeler ma collection les 100 nouvelles nouvelles nouvelles. Parce que je considère que j'en ai écrit à peu près 4 ou 5 pour un exercice pour voir si ça pouvait se faire. Puis quand j'ai pris un recul, puis j'ai dit, tiens, ça représente un sens d'humour vraiment rablaisien, carnavalesque, qui trouble l'autorité, qui dérange. Ça fait que j'ai décidé de continuer. Et pour finir ce soir, je vais vous simplement raconter une. Elle est écrite. Ça vous aide de suivre? Peut-être. Hein? Peut-être, oui. Hein? Parce que si je commence à parler cadien, c'est foutu. Alors, c'était quoi? Ah oui. La contorsionniste. Père Hébert était après confesser le monde un samedi matin, puis il y a une petite fille qui est venue dans le confessionnal. Après qu'elle a fini, elle avait fini de se confesser, le prêtre dit, « Cher, il dit, je connais tout le monde dans le voisinage, dans le village, et on dirait que je ne connais pas ta voix. » Il dit, « Tu ne viens pas d'ici? » La fille dit, « Non, père, a dit, je suis après voyager avec le cirque. » « Oh, mais il dit, ça c'est vaillant, et quoi c'est toi tu fais dans le cirque? » A dit, moi, je suis un contorsionniste. Oh, mais ça, c'est intéressant. Il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. A dit, mais père, t'as de la chance. A dit, on va être ici toute la fin de semaine, tu pourras venir nous voir. Oh non, il dit, je n'aurai pas la chance. Il dit, j'ai un mariage et deux baptêmes et enterrement. Il dit, je ne vais pas avoir le temps. La fille dit, mais ça, c'est dommage, mais elle a eu une idée. A dit, père, a dit, tu pourrais peut-être prendre un break de ta sœur. Il n'y avait personne après moi. Après espérer en arrière de moi, je pourrais vous montrer une petite affaire droite ici. Il dit, ben ouais, j'aimerais ça. Je pourrais m'arrêter pour une minute pour voir. Elle sort du confessionnal et elle s'assit dessus le plancher. Le prêtre ouvre son petit rideau, il se met à la regarder faire. Elle a pris son pied gauche, elle l'a passé par en arrière de sa tête et puis elle l'a attrapé avec sa main droite. Là, elle a passé son pied droit par en avant de sa figure puis elle l'a attrapé en arrière de sa tête avec sa main gauche. Juste en même temps, Madame Boudreau et Madame Thibaudeau rentraient dans l'église. Madame Boudreau dit à sa camarade, « Oh, mais je ne crois pas que je vais me confesser aujourd'hui. Père Hébert est de mauvaise humeur. Gardons la pénitence qu'il donne. » Madame Thibaudeau dit, « Mais moi non plus, je n'ai pas mis mes caleçons ce matin. » Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Réactions? Merci beaucoup d'avoir aidé, c'était magnifique. Vous avez une très belle voix d'ailleurs, hein? N'est-ce pas? Vous faites la radio? Ah, c'est magnifique, vraiment. Questions, réactions? Oui? n'y a rien à côté du sujet. Oh non, il n'y a plus ça. Il y a peut-être quoi, 250 000. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 20 ans passés, 30 ans passés, il n'y avait presque pas de jeunes. Aujourd'hui, il y a au moins des jeunes qui parlent à cause de l'immersion. Pas en, en assez grand nombre encore, mais il faut commencer quelque part. Aaron, il y a une certaine vitalité parmi cette génération de Fufo Leaf et Pine Leaf Boys et tout ça. Et il y a ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a énormément d'énergie créative dans ces gens-là. Ils écrivent des chansons, ils racontent des histoires. C'est vraiment impressionnant. Moi, ils me font sentir vieux. Et pourtant, je suis pas vieux, n'est-ce pas? C'est sur des disques en aluminium. Oui. C'est moi qui les a trouvés. à la Bibliothèque nationale, c'était les enregistrements de Alan Lomax. Et avec le miracle des... des ordinateurs.
Tout ça, ta brève, t'auras jamais de bonheur dans ta vie. Oui, fort aujourd'hui, ma chère de maman, dans la porte de la prison, et demain, si la terre pleura pour moi. Oh, dis ma maman. Pleure pas pour moi, à tes amis pour t'aider. Fais des prières pour sauver mon âme de les flammes de l'enfer.
Assez bluesy, assez. C'est incroyable. Oui, c'était d'une richesse inestimable. Et je vais vous dire quoi c'est qui arrive avec ces chansons-là. Voici l'enregistrement original de Elita Hofpauer, 16 ans en 1934. Okay, je vous parlais de cette jeune génération.
Tout un beau soir, en me promenant, tout le long du petit bois charmant. Tout un beau soir, en me promenant, tout le long du petit bois charmant. Bien, je vois là-bas, je vois venir une belle bergère.
Remarquable. Ces jeunes sont en train de découvrir des bijoux dans ce trésor que nous avons eu et ils sont en train de les recycler pour en faire de la nouvelle musique moderne qui a toute la viabilité, à mon avis, de n'importe quoi qu'on pourrait composer aujourd'hui. Puis pourtant, c'est une très vieille chanson. Oui, oui.
On étudie pas mal le grand dérangement et on a bien suivi des chemins, des chansons qui sont à l'origine française, qui sont venues au Québec et puis en Louisiane, comme j'ai vu de Lorena et la Belade. Mm-hmm. Savez-vous des autres, connaissez-vous des autres chansons qui...
Travailler, c'est trop dur. Vous connaissez Travailler, c'est trop dur, n'est-ce pas? Non? Connaissez ça, n'est-ce pas? Vous savez d'où ça vient? Ça, c'était l'original, M. César Vincent, enregistré en 1940. Non, mais exactement en même temps que Zachary Richard faisait sa version, que bien connue, n'est-ce pas, Michael Doucet avait fait... Ces deux versions sont nées Besson, des jumeaux, exactement en même temps, de la même source, mais vous avez remarqué que les mélodies sont drôlement différentes. Mais la raison pour ça, c'est que Michael Doucet était le premier à enregistrer cette chanson, et ça, c'était sa version. Mais le premier enregistrement de cette chanson a été fait à Paris, Pathé Marconi, en 1976, tandis qu'ils étaient, ils ont enregistré toute la nuit, et puis ils ont dû partir le lendemain. Et donc, ils n'étaient pas là pour le mixage. Hein? Et celui qui a mixé la chanson a oublié de mettre la voix principale. Et l'harmonie, qui, c'était ça.
C'est pas beau. Monde de la charité, c'est quelque chose que pas faire.
Moi, je chante la mélodie, et ça, c'était l'harmonie. Zachary a entendu l'harmonie, croyait que c'était la mélodie, puis l'a enregistré comme ça. Et c'est ça que Julien Clerc a entendu. Et ça produit tellement de droits d'auteur que Zachary s'est acheté une maison. Et tout le monde a oublié celui qui l'avait enregistré, composé probablement. Et ça a été dans tous les sens, hein.
Oh! choses je peux pas faire. Chaque jour que moi je vis, on me demande de quoi je vis. Je dis je vis sur l'amour et que j'espère de lui vieux.
Et je sais absolument, 100%, je suis 100% sûr, M. César Vincent n'a jamais eu un sou pour cette chanson, ni a-t-il su que ça aurait existé dans toutes ses formes. Il était ce qu'on appelle aujourd'hui homeless, un mendiant. Il dépendait de la charité des autres. Il passait des semaines à la fois avec des amis ou de la famille. Puis il chantait, il racontait des histoires. Voilà l'histoire de travailler, c'est trop dur. Merci de la question. J'étais équipé. autre chose? Oui? Non existant. Oui.
Je connais des gens à Bourges qui sont capables de transmettre ces danses-là. Si vous êtes intéressé, on peut, je sais pas, par exemple, par Liliane, faire passer l'adresse de ces gens-là. Et bien, si un jour ils devaient venir, est-ce que ça vous intéresserait?
C'est très simple et très agréable, et puis on n'a pas besoin de penser beaucoup. Oui? Oui?
C'est pas simple. Je voulais poser une question qui dépasse un peu le cadre de géographie, donc de l'Acadie. Il y a dans l'extrême nord-est états-unien d'importants descendants de migrants québécois qui sont arrivés en deuxième moitié du 19e siècle pour faire tourner les industries textiles qui se trouvaient là dans ces états dits de Nouvelle-Angleterre.
Oui.
Alors, je ne sais pas où en est l'état linguistique de cette colonie française, enfin, colonie française, à l'état plus ou moins résiduel. On entend beaucoup parler de l'Acadie et des efforts que font les Acadiens et éventuellement d'autres intervenants pour faire un peu renaître le français. Dans cette partie-là, on n'entend parler de rien. Mm-hmm. Pourtant, ils sont plus proches des Québécois et des francophones.
Mais il y a deux choses qui se sont passées essentiellement là-bas. Je ne veux pas parler pour ces gens-là, ce n'est pas mon pays, mais soit ils sont rentrés en Acadie et au Québec après avoir travaillé toute leur carrière, parce que ce n'était pas chez eux vraiment. Ceux qui ont fait ça, ils sont rentrés. Il y a beaucoup de gens qui en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick qui vont dire j'ai travaillé dans les États. Et puis je suis retourné à ma terre maternelle natale après. Ou ceux qui sont restés là ont passé à peu près l'expérience de Jack Kerouac. C'est-à-dire que oui, il parlait français, mais il ne parlait jamais français. Il pouvait parler français, mais il ne parlait jamais français. Et puis ils se sont intégrés, assimilés dans le grand pays. Il y a encore des francophones autour de Woonsocket et dans le Maine, et surtout dans le nord du Maine, là où c'est juste à côté du Marawaska, là il y en a beaucoup. Je parle plutôt des gens qui ont travaillé dans les usines et dans les moulins. Il y en a encore, il y a une petite quantité. Il y avait aussi des francophones dans le Missouri, dans les alentours de Vieille-Mine, Sainte-Geneviève, Prairie du Rocher, qui portent encore des noms français. Et les derniers francophones naturels de ces endroits-là viennent de passer, viennent de mourir il y a peut-être une dizaine d'années. Il n'y avait pas assez de masse critique pour soutenir la chose. Il y a beaucoup de francophones modernes dans une immigration récente, des Québécois en Floride, des Québécois à Los Angeles, des Québécois un peu là où il y a une plage. Et il fait chaud. Et donc, il y a une certaine immigration. En Louisiane, la francophonie louisianaise a été enrichie en partie récemment par pas mal d'immigration. Il y a pas mal de gens qui viennent de, je sais pas, de l'Afrique ou de Belgique qui tombent en amour, ils marient quelqu'un, puis ils restent.
Quand vous rencontrez un haïtien, quelle langue vous
parlez? S'il parle français, je parle français. S'il parle pas français, je parle anglais. Le créole louisianais est drôlement différent du créole haïtien. Oui. Non. Il y a des francophones noirs, bien sûr, en Louisiane, mais cette communauté-là a plutôt eu tendance, je parle généralement, hein, grosso modo, a plutôt eu tendance à s'américaniser, à parler américain quand ils ont commencé à vouloir changer. Il y en a beaucoup qui parlent encore français, puis il y a des groupes, Gino et d'autres, qui chantent encore en français, qui performent encore en français. Il y en a beaucoup. Mais je parle des grandes tendances. Il y a moins de jeunes francophones noirs que de jeunes francophones blancs. Oui, mais le Zydeco, c'est traduit. Le Zydeco moderne, c'est pratiquement tout en anglais, oui. Un petit peu. Dis quelque chose en créole.
Non, mais
un texte, je peux peut-être faire mieux que ça. Je peux faire mieux que ça.
Vous êtes équipé.
Oui, je suis équipé. Qu'est-ce que je ferais sans ça? Ok, voici du créole. C'est un monsieur Ben Guiné. Une histoire de Bouquet et Lapin.
Bouquet et Lapin. Ils étaient travaillés ensemble. Tu comprends ça?
Bouquet est un homme qui travaillait dur.
Tous les minutes. Il y avait un gaillard qui était pelé lit.
Qui l'appelait. Il était gain à baril du beurre. Il y avait un baril de beurre.
Il dit, oh, Bouquet. Nous avons besoin de toi.
T'as besoin de moi. Alors, c'est comme ça que ça... par contre... Ceci est un créole noir aussi.
Moi, je suis content. Je suis content que, à cette heure, quand même que je suis vieux, je suis content de voir l'amusement des jeunes parler comme de notre temps, nous autres.
Alors ça, c'est essentiellement du français. Et il y a toute la variété entre les deux. Est-ce qu'elle est Bernice? Ça, c'est du gros créole.
Hibou et puis un oiseau.
Hibou et puis un oiseau.
Il y avait hibou et un oiseau en haut un arbre.
Et là,
c'était un arbre qui a un creux.
Et creux, tu as des petits dévers en dedans.
Ça fait hibou et puis un oiseau dit, on parle de mon gars, on t'a mis que toi.
L'oiseau dit, mon pari m'a qu'à chanter mieux que toi. M'a capable de chanter mieux que toi.
Il vous dit, oh non, il vous commentez comme ça. Oh.
L'essentiel de l'histoire, c'est qu'ils ont fait à Paris qui avait la plus belle chanson, mais on ne pouvait pas prendre un verre avant de finir sa chanson. Parce que le petit oiseau savait que le grand oiseau, le hibou, allait tout bouffer les verres, puis il ne pouvait rien faire. Alors il a fait à Paris, il faut finir sa chanson avant de prendre un verre. Devient faible parce qu'il ne se nourrit pas. C'est une histoire en créole. Autre question? C'est l'heure? C'est l'heure. Ah, je crois qu'il y a une petite réception.
Un verre à boire.
Un verre à boire. Toutes les chansons que les hommes ont chantées méritent un coup à boire. Toutes les chansons que les femmes ont chantées méritent un coup à boire. Mérite un coup à boire. Mérite un coup à boire. Trinquons, trinquons les verres à la main en espérant les autres. Trinquons, trinquons les verres à la main en espérant les autres.